bienvenue sur la route 66, l'émission du blues sur Radio RDL 103.5 FM avec Jean-Luc, David et quelques invités.
Salut à tous et bienvenue dans Route 66 avec une nouvelle fois une émission basée sur le double signe de l'amitié et de la musique. De l'amitié pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qu'humainement j'apprécie beaucoup que nous recevons aujourd'hui, mais également un bluesman hors pair qui représente fièrement le blues français. Il s'agit de monsieur Steve Verbeck. Salut à toi Steve.
Salut David, salut Jean-Luc. Merci, hein, c'est très gênant cette présentation, mais ça me fait très plaisir.
On va pas s'arrêter là puisque tu es venu accompagné de deux gaillards hein, qui eux aussi justement font beaucoup pour le blues en France. On les retrouve à côté de nombreux artistes, donc je te laisse peut-être le soin de les présenter.
Ah bon, d'accord. Ouais, avec plaisir. Hein. Je suis venu avec mon pote et guitariste depuis maintenant quand même... plus de 8 ans, je crois, Stan Loubar-Pacha. Je pense, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter du blues, ça sert plus vraiment à grand-chose de le présenter, mais ça, pour moi, c'est le meilleur. Et puis, à la batterie, j'ai la chance qu'il soit libre ce week-end et que ça le branche de faire un petit peu de blues avec nous en trio. C'est Simon Boyer, Simon Shuffle Boyer. À la batterie.
Alors nous allons profiter de leur présence justement pour en savoir un petit peu plus sur leur personnalité et leur parcours artistique dans quelques minutes. Mais auparavant, on va surtout profiter de cette émission pour présenter en largeur, en long, en large et en travers ton dernier album dont c'était déjà fait beaucoup l'écho dans l'émission à travers une interview que tu m'avais accordée à Montreuil quelques mois. Alors c'est vrai que les auditeurs te connaissent, donc on passera peut-être sur le côté biographique de ta personne pour vraiment s'axer sur ton actualité. D'accord. Et la présentation de cet album.
Ouais. Hein ? Avec plaisir.
Et je vous propose de commencer tout de suite avec le morceau d'ouverture du disque qui s'appelle Énervé. Un petit mot sur ce titre ?
À cette heure-là, oui, non, en fait, on n'est pas du tout, c'est pas du tout notre genre. Alors, de temps en temps, ça fait du bien de se lâcher un peu, mais en musique, quoi.
Extrait de l'album Parano, Steve Verbeck et le Roots Trio, Énervé.
Mais ça avait trop mal commencé. Déjà je voulais pas y aller, mais pour toi je me suis préparé. T'as vu ce quartier, pas une place pour se garer. Et j'aime pas ces passants qui ont nous regardé. On passe par l'escalier. Devant la porte, j'ai pas envie de rentrer. Et là j'ai pensé. Oh là j'ai pensé. Je vais m'énerver. Oh j'en ai vu, j'en ai soupé. C'est difficile à raconter. Mais de les voir l'avenir te parler, je me dis, ils sont bien préparés. Et là j'ai pensé. C'est leur tronche qui me revient pas. c'est trop, faut que je la joue plus cool. Mais j'ai déjà trop posé, et là je peux plus me forcer.
Vous êtes sur le 103.5 FM Radio RDL à l'écoute de Route 66 avec des invités dont Steve Verbeek dont on s'est passé un premier morceau. Alors Steve, simplement pour en savoir un petit peu plus sur la musique que tu fais, alors il est vrai que tes influences sont quand même diverses, hein. C'est vrai que tu as vraiment un pied ancré dans le blues noir traditionnel, celui de Chicago notamment, hein, des années 40-50, mais d'un autre côté c'est vrai que notamment vu ton cursus familial, je vais dire, tu as quand même de fortes influences issues du blues français, hein, celui des pionniers quasiment du blues en France, tels que Patrick Verbeek ou Benoît Blueboy. Alors comment toi tu définirais ton propre style, puisque tu t'es quand même forgé tout au long de ces années une véritable personnalité?
Oula, bah, c'est un peu dur à dire, surtout pour moi, j'ai envie de dire, mais... Moi, j'essaie de rester le plus fidèle possible à tout ce que j'aime, en fait. Dans tout, hein, d'ailleurs. Pas qu'en musique, mais en particulier en musique, vu que c'est quelque chose qui, pour moi, a de l'importance. Je me dis que le seul moyen de lui donner réellement de l'importance, c'est de le faire de la manière la plus naturelle et spontanée qui soit. Hein, ce qui n'empêche pas, après, de travailler les choses pour faire de mieux en mieux. Mais au départ, il faut vraiment que ça vienne... du cœur et puis du fin fond. Donc forcément j'adore Muddy, j'adore Junior Wells, j'adore Little Walter, je les écoute tous les jours presque, et en même temps moi je les mets à égalité avec des gens comme Benoît Blueboy ou mon père. Enfin, je parle pour moi, je parle pas en tant qu'historien de la musique, hein, parce que là, ce serait différent, bien sûr. Mais et donc tout ça, ça se brasse, quoi, ça se mélange. Et puis moi, après, j'essaye de faire une musique qui corresponde à 2007, enfin à l'époque dans laquelle je vis. Et c'est là où je trouve ça plus facile à faire passer en chantant en français, justement. C'est là où je trouve que la légitimité de la langue est à son importance, quoi. Et en même temps, je sais jouer que du blues, enfin, et puis il n'y a que ça que j'ai envie de jouer, de toute façon. Alors après, on peut mêler d'autres influences. Moi, je suis, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être croire, je suis assez ouvert, quoi. J'aime plein de trucs, j'écoute plein de trucs. Enfin, pas trop, quand même, non. En fait, je suis pas très ouvert. si, non, mais je blague. Non, c'est vrai que quand tu t'intéresses à un style et que t'as envie de rentrer dedans, il y a un moment où t'es obligé de t'enfermer là-dedans, quoi, parce que t'as envie de le comprendre et d'aller loin, quoi. Mais sinon, à part ça, j'écoute plein de trucs et puis j'aime bien brasser les choses aussi.
Et tu développes quand même des thèmes qui sont plutôt actuels, hein, propres à leur époque. Est-ce que tu sens des similitudes par rapport justement aux thèmes qui étaient abordés dans les années 40 ou 50 par les bluesmen de l'époque?
On va dire que je l'imagine. Après, je peux pas le savoir, j'y étais pas. Mais je pense. En tout cas, je le pense et j'espère pas me tromper.
Et puis il y a aussi un talent d'écriture, quoi. Donc est-ce que tu pourrais justement parler, tu pourrais parler un petit peu de la conception des chansons et quels sont les artistes qui éventuellement t'ont influencé dans leur manière d'écrire. Est-ce que là tu les recherches principalement dans le blues français, ou alors est-ce que au contraire au niveau de l'écriture tu as élargi tes horizons et tu t'es inspiré d'artistes venus d'horizons divers?
Je sais pas trop, en fait. C'est sûr que la personne qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est Benoît Blueboy. Moi, à l'écoute de ses chansons, je me suis dit, ouais, c'est vraiment dans cette direction-là que j'ai envie d'aller. Après, il y a aussi les paroles de blues en anglais, quoi. Bon, alors, bon, des fois, il y a certains trucs, c'est très simpliste, et c'est vrai qu'en français, bah, ça passe pas, quoi. Hein. La langue anglaise permet des fois d'aller à l'essentiel avec très peu de mots. Des fois, en français, c'est on va dire, un peu raide. Mais oui, non, c'est vraiment Benoît. Et après, j'aime bien m'inspirer de plein de choses que j'écoute à la radio. Des fois, je sais même pas vraiment qui c'est, mais ça me plaît et je le réécoute. Et puis, pas mal aussi de lecture. Mmh. Même si ça a rien à voir, parce que c'est vraiment deux choses très différentes. Une chanson, t'es pas censé la lire, t'es juste censé écouter un mec qui raconte une histoire en musique et en chantant le mieux possible, quoi. Mais pas mal, en fait, je me suis beaucoup inspiré, ouais, de lecture.
Alors, cet album qu'on peut trouver dans les bacs de tous les bons disquaires depuis quelques mois s'appelle Parano.
Ouais, les super bons disquaires.
Et Parano, là aussi, tu peux un petit peu parler de l'histoire de cet album,
Du titre ou de l'album d'une manière générale?
De l'album dans un premier temps, d'une manière, ouais, générale, puisqu'on écoutera le titre un peu plus tard.
Ouais, avec plaisir. En fait, cet album, c'est un album dont je suis super content, parce que c'est notre album à Fabrice Millériou à la batterie, à Stan qui est avec nous, et puis Jean-Marc Labbé qui jouait le sax baryton sur tous les morceaux de l'album. Il y a aussi Corinne Tuiti qui est venue chanter, je peux même pas dire faire des chœurs, parce que c'est presque des duos, les deux morceaux qu'on fait avec elle. Et c'est notre disque avec notre copain Jean-Hugues qui nous a fait le son. On a eu aucune contrainte, quoi. Enfin, moi, je l'ai vécu comme c'était que du plaisir partagé, avec une envie de, une envie commune, sans qu'on ait besoin de se le dire, de faire du mieux qu'on pouvait. À un moment donné, voilà, on avait des chansons, des idées de musique, et puis on s'est retrouvés tous ensemble dans le studio, chacun avait envie de faire son meilleur, quoi, de donner son meilleur. Et pour moi, c'était rêvé, quoi. Je pouvais pas imaginer mieux. Et puis en plus, ça faisait un moment que les morceaux existaient, qu'on tournait en trio avec Stan et Fabrice. Après, on a commencé à tourner avec Jean-Marc Labbé au sax baryton. Ça s'est super bien passé, et très rapidement, en plus, on s'est très vite entendu humainement et musicalement. Et c'était un peu la galère pour trouver un système pour faire cet album. Le blues en français, on peut pas dire que ça a un potentiel énorme, donc ça intéresse forcément très peu de gens au niveau financier, quoi, on va dire. Et au bout d'un moment, les chansons étaient là, j'avais des super musiciens, j'ai dit bon, c'est bon, je fais ce disque, quoi qu'il arrive, je le fais. Et j'en suis ravi. Sans même parler de moi et de mes chansons, je suis vraiment hyper content de tout comment ça s'est passé et de comme ils ont joué, quoi.
Ça s'est fait rapidement, l'enregistrement? Entre le temps d'écriture, finalement, c'était des morceaux que tu avais vraiment depuis longtemps à l'avance.
Certains, oui, ouais. Et d'autres qui se sont greffés un petit peu plus tardivement, mais c'était quand même chaque morceau, on les avait déjà joués, je les avais déjà enregistrés en petite maquette pour pouvoir les réécouter et bien les avoir un peu digérés, quoi. Je sais pas si on peut employer cette expression à la radio, si on peut, ouais, chouette. Et qu'est-ce que je disais, je sais plus.
Et
donc t'avais préparé les morceaux bien en amont.
Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais bien, tous les morceaux étaient bien préparés, mais après il restait encore plein de place pour s'exprimer en studio. Et on... ah oui, non, c'était est-ce qu'on l'a enregistré en longtemps?
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Pour nous c'est correct. C'est 10 jours, quoi. On a pris 10 jours de studio, ce qui est bien. Mmh. Tu traînes pas, mais t'as le temps quand même de prendre un petit peu de recul, donc ça va.
Vous avez laissé une place à l'improvisation dans ce disque? Est-ce qu'il y a des morceaux comme ça qui se sont faits sur le vif et enregistrés en très peu de prises?
Ils ont tous été enregistrés en très peu de prises, en fait. Parce que, de toute façon, sinon après, tu perds... quand tu joues live vraiment en studio comme ça, tu perds le truc au bout d'un moment.
C'est quoi, c'est pour garder un caractère spontané à ta musique?
Ouais, complètement. Et puis je trouvais que ça collait au morceau. Et puis sinon, c'est notre démarche. Là, pour le coup, 10 jours de studio, sinon c'est plus suffisant. Là, il faut se dire, j'ai open studio, quoi. Et là, tu prends ton temps et tu recommences tout et tu pinailles sur tous les petits détails. Quand tu veux faire un disque, on va dire live et un peu roots, entre guillemets, comme on a eu envie de faire, il y a des choses que tu laisses de côté, quoi. Tu traces et tu vas à l'essentiel.
Et en l'occurrence la plupart des morceaux qu'on a fait, quand on a essayé de faire d'autres prises, c'était souvent la première prise qu'on gardait parce que il y avait cette spontanéité qui était évidente, quoi, avec la musique de Steve. Je pense que c'est comme ça que ça doit se faire.
Et pour préserver ce côté roots, justement, propre à l'album, est-ce que vous êtes passé par l'utilisation, par exemple, de matériel vintage ou du matériel en particulier ou
Oui. Ouais, on est dans un studio qui utilise pas mal de matériel vintage. De toute façon, nous, notre matériel, il est, hein, Stan, ses guitares, ses
Stan
amplis.
Stan est vintage, lui.
Ouais, de toute façon, Stan est vintage. Fabrice, c'est pareil. Bon, là, Jean-Marc, il est pas là, mais il est bien vintage aussi, Jean-Marc.
Oui, encore plus vintage.
Oui, hein, c'est le plus vintage de tous. Et non, bon, c'est sûr, on avait quelques vieilles réverbes et puis des échos à bande, voilà, pour essayer de retrouver un petit peu les sons qu'on aime bien, quoi. Et puis des super micros. Des super micros, voilà.
Ok, alors il y a une légende qui est carrément rompue sur ce disque, hein. On pensait toujours que les bluesmen étaient sans thune, fauchés. Et ben non, toi tu persistes et tu signes, tu as de l'argent.
Bah ouais.
C'est un peu pour ça que t'es mon invité aujourd'hui, quoi.
J'en veux encore.
Mais on va se passer le morceau éponyme J'ai de l'argent, Steve Verbeck et le Roots Trio.
J'ai de l'argent, mais j'ai besoin d'amour. Oh oui, de l'argent, mais tellement besoin d'amour. Ah, je connais tous les systèmes pour m'en mettre plein les poches. Toutes les combines, des banquiers et des courtiers. Je monte des affaires, peintes en couleur d'un éclair. Ah, je connais tout. Et j'ai de l'argent. Maintenant j'ai besoin d'amour. Oui, plein d'argent. J'ai tellement besoin d'amour. Oh, je me suis découvert en étant insoupçonné. Pour rentrer du blé, j'ai pas besoin d'y penser. J'ai tout le système pour ramasser du blé. Je connais tout.
L'argent.
Oh oui,
l'argent.
oh oui, tellement besoin d'amour. Oh non, il n'y a rien à faire, pourquoi j'aurais tout perdu? Ma plus belle affaire, pourquoi j'aurais tout vendu? Je me serais mis sur la paille, pour toi ma bonne étoile, je donnerais tout.
J'ai de l'argent, c'est pas moi qui le dis, c'est Steve Verbeck qui est notre invité aujourd'hui dans Route 66. Y a aussi un petit côté jargon dans, quelquefois dans tes paroles.
Ah bah ouais.
C'est quelque chose que tu aimes, ça?
Bah ouais.
D'accord.
C'est la culture populaire. Moi j'aime tout. Moi.
David Montreuil.
Une fois l'album enregistré, ça a été facile pour toi de trouver un distributeur,
ouais,
un label?
Facile. Tu sais, moi, en deux coups de fil, je fais tout. Là, je sais pas dans quoi je vais me lancer maintenant, parce que là, j'ai fait le tour. L'ASIC, c'est trop facile.
Une chaîne de grands magasins.
Ouais. ouais, ça a été. Enfin, je dis ça sans prétention, hein, c'est pas. C'est bon, mais le disque était fait. Alors je sais pas, peut-être qu'il est chouette. Enfin en tout cas moi j'étais persuadé de tenir un truc super. Donc peut-être c'est plus facile tu vois pour aller au charbon quand déjà toi t'es super content du résultat. Donc et puis ben Mosaïque a joué le jeu, a je pense apprécié et puis moi j'avais déjà toutes mes idées en tête sur comment je voulais que ça se passe. Donc ça l'a séduit, je pense.
Et toi, qui es quand même un jeune artiste de blues, comment tu ressens justement la notoriété de cette musique actuellement? Est-ce qu'il est facile pour toi de t'imposer auprès des médias et surtout de trouver des concerts actuellement?
C'est jamais facile, mais je pense pas que pour le blues. Hein. Je crois que c'est pas facile tout court. On sent vraiment que la culture et puis c'est moi hein, qui tape dans ma main, je suis désolé tout le monde, et je pense que c'est pas évident pour personne, et qu'est-ce que je voulais dire, ouais, mais par contre c'est super parce que du coup tout le monde se démerde dans son coin et fait des trucs vrais quoi. Et je pense que ça marche, les gens sont sensibles à ça. C'est difficile d'y avoir accès. On est encore bien bombardé de Starac et compagnie. Bon, j'exagère, je vais chercher là le summum, quoi, de la niaiserie peut-être. Mais les gens, quand ils y ont accès, ils y sont sensibles à ce genre de musique, que ce soit blues ou pas blues, mais c'est cette musique qui est jouée avec passion et cœur. Donc, je m'inquiète pas. Je me dis qu'il y a forcément un moment où ça va être payant, quoi. Enfin, payant, je veux dire, je cherche pas. Enfin, sûr, Marc. Mais...
Jeu de l'argent.
Ouais, jeu de l'argent.
En tout cas, c'est vrai que la dernière fois que je t'avais rencontré, t'étais déjà plutôt optimiste pour l'avenir.
Ouais, non, mais sinon, il faut faire autre chose. Faut faire les choses avec envie et optimiste, quoi. Sinon, ça va, il y a plein d'autres trucs à faire. Plus important, plus lucratif, il y a plein d'autres choses. Donc, autant le faire avec à donf quoi. Qu'est-ce qui dit ça déjà?
Est-ce que tu pourrais juste un petit peu revenir dans le passé sur tes belles rencontres musicales?
Ouais.
Parce que c'est vrai que ça avait commencé, je crois, plus ou moins avec Junior Wells que tu avais vu en concert.
Ouais.
Entre temps, il est clair que tu as rencontré énormément de gens. Donc, quels ont été aussi un peu leur impact lorsqu'il s'agissait d'harmonicistes, par exemple, sur ton propre jeu? Est-ce que tu as reçu des conseils intéressants de la part de ces gens-là?
Oui et non. De toute façon, c'est des gens. Moi, quand je les écoutais, déjà, c'était tellement merveilleux. Et puis d'essayer de reproduire ce qu'ils faisaient en écoutant les disques ou en allant des fois en allant voir les concerts, t'as l'impression que tu comprends un petit peu mieux certains quelques petits détails. Alors t'es super content, rentrant chez toi, tu réessayes tout de suite. Mais c'est vrai que la rencontre avec Junior Wells, c'était magique, quoi. Et puis là, j'ai rencontré deux fois. La première fois, je crois que je commençais à peine à me dire, tiens, je me mettrais bien à l'harmonica. J'avais commencé à souffler dedans un peu, quoi, mais pas plus. Puis je l'avais vu, en plus il jouait avec Buddy Guy, grande époque, quoi. J'ai fait, ouais, mais c'est exactement ça que je veux faire. Tout comme lui, hein. Je vais faire exactement ça. Et puis après, je l'avais revu, je crois, pour les 25 ans de Soulbag, une fête, un grand concert organisé par Soulbag. Ouais, voilà, exactement. Et j'avais eu la chance de le rencontrer dans les loges. Et il m'avait donné un cours d'harmonica sans harmonica. C'était génial. Et il m'avait montré juste électrique, acoustique. Et bien, genre, après, tu te démerdes. Hein, tu fais comme moi, quoi. Je me suis démerdé, tu te démerdes. Hein. Et en fait, c'est comme ça que ça marche. En plus, l'harmonica, c'est dans la bouche. Alors, si tu veux, t'es obligé de te démerder. Hein.
Quelques minutes, tu essaieras de donner peut-être un cours d'harmonica avec harmonica à nos auditeurs, puisque tu es venu accompagné de quelques-uns de tes instruments. Auparavant, on va se passer un nouvel extrait de l'album, et puis également parler avec tes musiciens qui sont présents dans le studio et qui nous permettront de mieux connaître ces gens-là.
Avec plaisir.
On se passe parano ?
Allez.
Allez, go.
Parano ! Bien tous parano. Passe des années à accumuler, à faire attention, à mettre de côté, tout s'en passer. Pas à travailler. On va bien profiter si on nous pique près de la plaie. Parano, 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 parano. Moi aussi j'ai peur de perdre tout ce que j'ai gagné. Moi aussi j'ai peur quand la place est réservée. Pas te faire arrêter. Mais pas encore une fois.
Parano, extrait de l'album du même nom, distribué par Mosaïque. C'était Steve Verbeck et le Roots Trio. Alors Steve Verbeck, si vous voulez en savoir plus, hein, il y a déjà deux interviews que vous pouvez lire sur notre site internet, sur laroute66.free.fr. La première remonte à 2000-2001, quelque chose comme ça. Et puis la dernière est toute récente, hein, puisqu'elle précédait justement la sortie de ce disque. Alors, comme je vous l'ai dit auparavant, Steve n'est pas venu seul. Il est venu accompagné par deux de ses musiciens, à savoir Stan Lubar Pacha et Simon Shuffleboyer. Alors, on va peut-être essayer de profiter de leur présence pour les présenter plus amplement. Peut-être en commençant par Stan, le guitariste du groupe. Stan, ça fait plaisir de t'avoir ici, Lyon.
Pareillement, pareil.
Est-ce que tu pourrais un petit peu revenir justement sur ton cursus professionnel? Ça fait, je pense, très longtemps que tu joues de la guitare. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier? De quelle façon t'es-tu lancé dans la pratique de cet instrument et quelles étaient tes influences?
Eh ben, écoute, je me suis fait offrir une guitare à l'âge de 13 ans. J'ai appris à jouer un peu tout seul. Et en écoutant des disques, et il se trouve que même si j'aime beaucoup d'autres musiques, en l'occurrence le jazz et la musique américaine, mais le truc vers lequel je me suis penché, où je pensais vraiment que c'était plus accessible pour moi et ce qui m'intéressait le plus en définitive, c'était le blues. Donc j'ai commencé à jouer tout seul, et puis après au lycée, à rencontrer d'autres gens qui jouent de la guitare, à faire un premier groupe, etc. Et puis de fil en aiguille... J'en suis arrivé à jouer avec monsieur, là.
Et quels ont été justement tes premiers groupes, tes premiers contrats professionnels?
Premier contrat professionnel, je pense que c'est... Le premier vrai contrat professionnel, c'est avec un groupe qui s'appelait Alcatraz Blues Band, qui était un groupe basé sur Paris, qui était un groupe de reprise de Chicago Blues. Hein. Et ça date à peu près du début des années 90, hein. Et j'ai joué un moment avec ce groupe, puis après j'ai enchaîné, j'ai fait la connaissance de Benoît Blueboy, Steve Verbeck, et puis après accompagné d'autres gens, des Américains de passage à Paris, des choses comme ça, quoi. Voilà, quoi.
Alors si Stan n'est pas quelqu'un de tordu, par contre c'est quelqu'un de tortillé, hein, puisqu'il faisait partie des tortilleurs de Benoît Blueboy. Est-ce que tu peux quand même revenir sur cette collaboration qui date maintenant et qui est toujours d'actualité?
Ouais. Eh ben, écoute, en fait c'est simple, j'ai rencontré Benoît, je jouais justement avec ce groupe Alcatraz Blues Band dans un club, et il cherchait à remonter un groupe, et donc j'ai fait partie de cette équipe, notamment avec le batteur qui s'appelle toujours Fabrice Milario. Et c'est pas très éloigné de, au niveau personnage, de ce qu'est Steve Verbeck, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont vraiment un univers bien à eux, et c'est très facile de... d'une part de travailler avec ces gens-là, parce qu'en général ils savent ce qu'ils veulent, et je sais pas, j'y trouve vraiment mon compte, quoi. C'est un bonheur, je dis pas ça parce qu'il est là, d'ailleurs faut pas que je lui dise trop, mais pour moi la chose qui est importante dans la musique, c'est en dehors du fait de faire de la bonne musique, c'est de jouer avec des gens avec qui tu as des atomes crochus et qui font que tout se passe bien en général, c'est-à-dire qu'il y a une ambiance cool et que... Pour moi, c'est la condition sine qua non, c'est 50% du truc, quoi. Et donc, voilà, quoi, ça, c'est un peu le cas avec ce Deloustique-là, quoi. Donc, c'est un bonheur.
Et est-ce que tu as d'autres projets parallèles à ceci?
Eh bien, écoute, je joue aussi avec un groupe qui s'appelle Mama's Biscuit, où c'est des reprises de blues, pareil, rhythm and blues, des choses entre les années 50 et 60. Et puis, je joue de temps en temps avec un monsieur qui s'appelle Eric Anderson, qui est un type qui vient plus de l'univers folk, c'est un songwriter en fait. Et on joue en duo, il aime bien ce côté blues que je peux avoir, et voilà, quoi.
Et de ton côté, tu t'es jamais, t'as jamais été tenté par le fait de chanter? Tout le monde rit.
Bah, c'est devenu le gag des gens qui me connaissent, en fait. Ouais. C'est qu'en fait, comme tu peux le voir, j'ai une voix assez extraordinaire. Et j'y pense de plus en plus. Non, mais bon, voilà, j'ai pas de. Je pense déjà que chanteur, pour moi, c'est autre chose que musicien. C'est-à-dire que c'est un. C'est une autre manière de se mettre en avant, et c'est une autre manière d'avoir des choses à défendre. Et moi, au niveau de ma personnalité, je me sens très bien en tant que sideman. Et puis, de toute façon, je suis pas chanteur, et j'ai pas, quand bien même j'aurais cette volonté-là que je n'ai pas, j'ai pas la voix
c'est pas vraiment la voix pour, quoi. donc je reste derrière ma guitare, quoi.
D'accord. Quel est ton plus grand souvenir depuis le début de ta carrière?
Non, le plus grand souvenir, ça reste quand même au début que je jouais avec Benoît Blueboy. Ça faisait quelques mois et on est parti jouer au Festival de Jazz de Montréal. Hein, et ça reste un souvenir incroyable, hein, parce que notamment dans la même soirée, on a joué dans un endroit qui s'appelle le Spectrum, qui est à peu près l'équivalent de l'Olympia à Paris. Et juste avant, c'est-à-dire qu'on a fait ce spectacle-là, et juste avant, on a joué en plein air devant, je sais pas, 10 à 15 000 personnes. Ça, c'est un souvenir vraiment incroyable, quoi. Et qu'en plus, j'étais assez frais dans ce boulot-là, et de commencer par ce genre de truc, ça laisse un souvenir assez impérissable, quoi. Voilà.
Alors, à tes côtés, il y a un batteur français. Alors, c'était une bonne surprise de le rencontrer hier, puisqu'on n'avait jamais eu l'occasion de se croiser. J'avais déjà eu, par contre, le bonheur de le voir sur scène, à côté d'autres artistes. C'est Simon Schoeffel-Boyer. Alors, pareil, un petit peu les mêmes questions que pour Stan. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ton cursus?
Alors, je suis né à Limoges, où il y a une tradition un peu jazz. Il y a un Hot Club, c'est une association qui fait plein de concerts. Et mon père était amateur mais passionné de jazz, donc il m'a transmis le goût du jazz. Et puis ensuite, moi, en grandissant, le jazz, le blues, comme j'adore le rock, voilà, j'écoute un peu de tout. Puis j'ai commencé à jouer un peu quand j'étais adolescent, un peu avec mon père. Puis j'ai rencontré d'autres gars avec qui je faisais du blues, avec mon père je faisais du jazz. Puis j'ai continué, voilà.
Est-ce que le fait de venir sur Paris était une nécessité ou pour toi pour
non, c'est pas une nécessité, mais disons, moi, avant d'arriver à Paris, j'étais sur Poitiers. Non, c'est pas une nécessité, c'était une envie d'aller vers d'autres gens, rencontrer d'autres personnes, essayer d'avancer. Puis en fait, mon épouse était pareil pour son boulot dans une autre branche. On s'est dit, alors on monte à Paris, comme on dit. Mmh. Voilà, donc j'ai rencontré à Paris. Stan, Steve et bien d'autres.
Et quels sont tes modèles en termes de batteurs?
Il y en a plein.
Pareil, ça va aussi dans des styles très différents?
Oh oui, moi j'écoute vraiment plein de choses différentes. Mais pour la batterie, je suis très. Mes références sont les batteurs de jazz. Ensuite, j'adore le hard rock, j'adore la pop musique pour les groupes, les chanteurs, les paroles. Mais pour la batterie pure et dure, moi, c'est les batteurs de jazz qui m'ont toujours fait rêver. Les vieux batteurs de la Nouvelle-Orléans, comme Zooty Singleton, jusqu'à Buddy Rich ou Art Blakey ou tous ces gars-là. Max Roach qui est mort il y a pas longtemps. Moi, j'ai toujours écouté beaucoup, beaucoup de jazz. J'en fais toujours, d'ailleurs. Après, dans le blues en particulier... tous les grands batteurs qui jouent bien avec les grands artistes. On connaît Fred Bilo, tous les amateurs le connaissent parce qu'il a fait beaucoup de séances. Mais il y a Sonny Freeman qui joue avec B.B. King ou Richie Kotzberg qui joue avec Ray Charles, tous ces gars-là. Quoi. Même si on ne connaît pas les noms, on écoute, on se dit tiens, c'est bien ça. Puis,
voilà. Est-ce que tu pourrais évoquer un peu tes collaborations?
Là, actuellement, en jazz, je joue avec Marc Laferrière. C'est on va dire le vieux style jazz New Orleans, soit inspiré de Bécher. Je joue beaucoup avec tous les pianistes de Boogie, Jean-Paul Amouroux, Jean-Pierre Bertrand, Julien Brunto, tous ces gars-là. Je joue de temps en temps aussi avec Patrick Sossois, c'est un guitariste de jazz. Et puis sinon, pas mal de blues, un peu partout avec les copains. Là, Stan, on parlait, nous, on joue souvent ensemble aussi, on accompagne régulièrement d'autres harmonicistes comme Vincent Boucher ou Youssef Ramadna. Voilà, plein de trucs comme ça.
Et là, tu as franchi le pas dernièrement en sortant un disque,
ouais,
sur ton propre nom.
Plaisir, ouais,
ça fait plaisir. Donc, c'est le premier disque que tu sors sur ton propre nom?
Ouais, c'est un plaisir purement comme. Pas qu'on est content, il y en a des femmes qui vont s'acheter une paire de chaussures, les gars ils s'offrent une belle guitare, moi je me suis fait mon CD tranquille,
ouais.
Puisque je suis toujours en fait le batteur dans un groupe où je fais dans une aventure sur un disque où il y a un répertoire bien défini, tout ça, moi je me suis fait plaisir, voilà, j'ai fait un truc un peu complètement improvisé, sans penser à plus loin que le plaisir du studio pur. Donc c'est assez particulier, c'est très blues mais c'est très particulier, quoi.
Et toujours dans des formules très minimalistes en tout cas,
parce que
si tu joues pas seul, c'est à chaque fois avec
c'est
une forme de duo.
Des duos, et c'est plutôt instrumental. Je me suis fait plaisir, voilà, j'avais envie de faire ça pour justement faire quelque chose de différent de ce que je fais tout le reste de l'année quand on est sur scène comme ce week-end où on présente un répertoire bien défini ou je me mets au service d'un artiste ou sur les tournées ou là le truc qui a été fait que sur l'instant il y a des morceaux on les a joués qu'une fois, c'est quasiment que des premières prises. On en a fait plein, on a gardé choisi celle qui me plaisait, ok. Mais voilà, c'est un pur c'est une démarche purement on va dire de scène mais en studio.
On y retrouve Julien Brunteau à la guitare.
À la guitare, oui, parce que c'est trop facile de faire un disque avec Julien au piano. Tout de suite, ça va être très bien, on le sait, quoi. Alors que là, c'était plus risqué de le mettre à la guitare, et c'est super d'ailleurs.
Et donc, l'album s'appelle L'Adver Be Blues.
Ouais.
Petit clin d'œil évidemment à ACDC.
Ben, moi, je suis un fou d'ACDC. Phil Rudd, tiens, voilà, un grand batteur. Voilà, j'adore. Ouais, Led Zeppelin Rock, c'est le disque de chevet absolu.
Quel est le moyen de se procurer ce disque?
Alors, en général, c'est quand je joue, on vient me voir. Je le vends. Ou sinon, on peut m'envoyer 20 €, mon adresse, et puis je renvoie le CD. 20 €. Moi, j'habite 7 rue de la Gare, 78 940, La Queue-les-Yvelines.
Et c'est Simon Boyer, oui. Simon Shuffle Boyer, que je vous propose d'écouter tout de suite, justement, en duo avec Stan Nubar Pasha, avec un morceau qui s'appelle Rough Reef. C'est parti. Batterie de Simon Shuffle Boyer, la guitare de Stan Nubar Pasha, cet extrait de l'album Let There Be Blues de Simon. Alors, vous êtes de retour sur le 103.5 FM. Steve a saisi un harmonica. Il va nous offrir un titre en live. Est-ce que tu peux nous présenter le titre que tu vas le faire? Non, ça va être une. Non, d'accord,
non,
merci.
Je ne sais même pas ce que je veux faire. Je vous le présenterai après, peut-être.
D'accord.
Si je m'entends bien avec, je verrai.
Bon, on te laisse faire.
Yes, I'd rather see you sleeping in the grounds. Yes, I'd rather see you sleeping in the ground. I give you all my love, my money and everything. I'll give you all my loving, my money and everything. I give you all my loving, babe, my money and everything. I worked 5 long years, and you had enough to put me down. I win, I always seem to lose. Well, every time I win, I always seem to lose. I'm just beginning to realize I'm a prisoner of the blues. Yeah. Merci. On va dire un hommage au grand Sammy Myers.
D'accord.
C'est à lui que j'ai pensé en tout cas.
D'accord, ok. C'est vrai qu'il nous a quitté il y a quoi ? Il y a peut-être un an.
Ouais, c'est ça, à peine.
C'est vrai que c'était un grand, grand monsieur de l'harmonica. Allez, on se passe un nouvel extrait de l'album de Steve. C'est la 15e. Non, que dis-je ? Ça s'appelle T'es toute seule maintenant. C'est la 12e page de l'album. T'es seule maintenant ?
T'es seule maintenant ?
Ouais.
Ouais ?
Ouais.
Ça roule.
Bah, si t'es seule, on écoute de la musique. Ouais, c'est parti.
Pourquoi t'es seule maintenant ? Je vais te dire pourquoi t'es seul maintenant. Souviens de cette belle journée, je t'ai regardé partir en courant. J'ai vu ton sourire en serrant. Si fort dans ses bras musclés. Ces moments qui n'appartenaient qu'à nous deux et que tu n'as pas oublié. Oh, 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 oh. Et t'es seul maintenant. Thank you. Pourquoi t'es seul maintenant? Pourquoi t'es seul maintenant? Pourquoi t'es seul maintenant? Pourquoi t'es seul?
Seul maintenant, Steve Verbeck et le Roots Trio dans Route 66 sur le 103.5 FM. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver à travers notre site internet sur laroute66.free.fr où plus de 290 interviews sont transcrites. Il y a pas loin d'une soixantaine de reportages en ligne, des 700 photos, des dizaines de vidéos, enfin... plein de choses à voir, donc je vous rappelle l'adresse sur laroute66.free.fr et n'hésitez pas à nous laisser des messages de temps en temps. Le moment est venu de conclure déjà cette émission, que le temps passe vite en si bonne compagnie. Steve, un petit mot pour la fin ?
Ouais, ben écoute, encore une fois, j'ai envie de dire que c'était un plaisir, un moment super agréable. On s'est vu hier soir au CAF Cons à Ensisheim, je l'ai bien prononcé ?
Très bien.
Ouh, la classe. Mythique club d'Alsace. C'est un plaisir, ça donne envie de revenir, quoi, et puis de continuer parce que c'est des rencontres avec toi et puis avec plein d'autres gens un peu partout en France qui t'aident à garder la foi et l'envie, quoi. Donc merci à tous et puis achetez Parano. Envoyez tous 20 euros à Simon, il vous envoie l'aide d'air
Biblouze.
Et même hier, je proposais à certaines personnes, parce qu'en cadeau, il est vachement bien Parano. Mm-hmm. Donc, faut en acheter deux, en fait.
Mm. Un pour soi, et puis
on en garde un, tu vois. Hop, on ne sait pas trop quoi amener. Chut. Un disque de Steve Verbeck, ça le fait grave.
Ça fait.
Donc, voilà, j'ai envie de conclure sur ça. Et puis, après, il y a les t-shirts, les badges. Enfin, j'arrête.
Et puis un site internet ?
Ouais. Pour les t-shirts et les badges. Et puis pour plein de... J'ai essayé de mettre plein de musique sur le site le plus possible. Mmh. J'ai un petit blog où... des fois, je suis pas vraiment à jour parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas d'idées. Mais d'une manière générale, le blog, il me ressemble, quoi. Des fois, je suis à donf dessus, puis des fois, rien du tout. C'est sur le www.steve-celui qui est vers le 6, là, sous le 6, verbeck.com.
Ok, sinon sur MySpace, hein, il suffit de taper MySpace ton nom, aussi, Steve Verbeck. Et puis il y a aussi un blog consacré uniquement à l'album, je crois.
Ouais, Parano, j'ai fait un MySpace sur Parano, sur l'album. Ouais.
Exact. Même punition pour Simon et pour Stan, un petit mot pour la fin, quelque chose à dire ?
Moi, juste que j'étais ravi d'être là avec toi et d'être ici à Ensisheim.
Ouais.
Voilà.
Très bien.
Ouais, merci. C'est très sympa. On passe un bon week-end. Venez ce soir nombreux. Pour ceux qui peuvent nous voir au CAF Cons. Puis bon, faut reconnaître que les Argentins étaient plus forts. Donc voilà. Au bout de la fin.
Tu parles de quoi ? Je comprends rien.
Le CAF Cons, on en profite pour faire de la pub. Hein. N'hésitez pas aussi à aller sur notre site à la rubrique concert. Hein. Il y a tous les événements à venir dans ce lieu que Steve va qualifier avec beaucoup de justesse de mythique, puisque c'est vrai qu'il nous offre de bien beaux concerts. On se quitte avec un ultime titre, extrait de l'album de Steve Verbeck et le Roots Trio. L'album s'appelle Parano. Précipitez-vous chez les disquaires ou commandez-le sur internet. Le morceau s'appelle Je sais qu'il te tient à cœur, c'est Drôle Deal.
Yes.
On termine comme ça. Salut à tous, merci d'être venus. Et j'espère vous revoir très bientôt.
Merci à vous.
Et
merci.
Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Ciao.
Ciao. J'en ai baigné un petit tour dans le cadre.
coucher de soleil sur la plage du Liamore. On l'appelle l'île de beauté. Waouh, c'est pas bazar. On l'appelle l'île de beauté. Non, c'est pas par hasard. À chaque fois que j'y vais, mais je me sens chez moi, c'est bizarre. J'ai trouvé mon paradis.